423 000 Juifs habitent en Judée et Samarie, 205 000 à Jérusalem-Est. Et à Jérusalem-Est, c'est-à-dire à l'intérieur de la ligne verte, on a fait construire de nouveaux quartiers comme Guilo au sud de Jérusalem, Ramoth et autres. Et dans tous ces quartiers, eh bien, il y a quand même 200 000 habitants. Mais pour les Arabes, ces habitations construites à l'intérieur de la ligne verte doivent redevenir ou devenir arabes, où les Juifs de ces implantations doivent partir pour avoir la paix. Donc vous chassez maintenant 600 et quelques mille habitants juifs. On en a chassé je ne sais combien de centaines de la bande de Gaza. Peut-être que si l'armée vient pour les chasser, on aura une guerre civile entre les Israéliens de droite et de gauche. C'est peut-être ce que l'ennemi voudrait, nous voir nous entretuer pour cela. Et alors vous allez sur Internet, vous voyez qui c'est ce maître Bertrand Hamas. La Judée-Samarie n'est ni palestinienne ni occupée. Et d'après la loi internationale, Israël occupe légalement la Judée-Samarie. Il n'y a pas eu d'État. En 1947, il n'y a pas eu d'État créé en Judée-Samarie. Ça a été annexé par la Jordanie. Personne n'a dénoncé cela. Israël l'a récupéré pendant la guerre. Et donc légalement, Israël a le droit sur le plan international. Alors je ne sais pas où sont tous ces avocats et ces maîtres du monde entier qui ne peuvent pas lire les textes. Israël a le droit légalement sur le plan international d'être là-bas et de faire des implantations. Et ça, il n'y a pas grand monde qui le dit. Et les Israéliens ne se défendent pas suffisamment. Ce que dit la Bible, « Je te rebâtirai, tu seras rebâti, vierge d'Israël, tu auras encore des tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses de ceux qui s'égayent. Tu planteras encore des vignes sur les coteaux de Vevey. Oh, » Sur les montagnes de Samarie. Et oui. Et comme j'aime à le dire, il y a quelques années, j'ai vu un groupe d'adventistes. On avait fait plusieurs jours de visite, et puis à Jérusalem, et ensuite on va en Samarie. Et le matin, à 9h, on était attendus dans un chai en Samarie. Les adventistes. Normalement, ils ne boivent pas. Alors, qui leur a mis un chai à 9h du matin pour une dégustation en Samarie? Alors j'ai bien rigolé, mais on a de la vigne maintenant. Et la Bible dit, alors il est dit aussi de partager le pays avec l'autochtone, mais encore faut-il que cet autochtone veuille accepter la présence. Au revoir Obama, bienvenue à Trump. Peut-être que le Seigneur ne se trompe pas. Que seront les nouvelles relations avec les USA? Poignée de main, sera-t-elle favorable aux intérêts israéliens? Wait and see, d'accord? On ne sait pas ce qui va se passer. Il a fait des promesses. Bien sûr, moi aussi, si je voulais être élu président français, je ferais des promesses à tout le monde. Et j'en tiendrai aucune, comme tout le monde. Non, je serais peut-être mieux que... Je ne sais pas. Alors, selon le Talmud, l'alliance israélo-américaine plus forte que jamais. Espérons que ce soit vrai. Et Netanyahu a lancé l'alliance entre Israël et les États-Unis a toujours été bonne. Mais j'ai dit, je redis, cette alliance est devenue encore plus forte pour deux raisons, à savoir grâce aux relations personnelles. Bon, c'est important aussi quand deux présidents s'entendent bien, qui durent depuis de nombreuses années. Et c'est important notre point de vue commun sur les dangers et les opportunités du moment au Moyen-Orient. Donc, c'est-à-dire l'Iran, l'Irak, l'État islamique et autres. Bon. Et ça, c'est pas vieux. Alors, Tel Aviv, c'est un site internet. Vous notez, puis vous recevrez une lettre de nouvelles si vous vous inscrivez. Ambassade à Tel Aviv ou à Jérusalem. Donc, bien sûr, dans son programme électoral, il a parlé de transférer l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Est-ce que c'est un coup médiatique ou un coup politique, électoral? Est-ce que c'est maintenant qu'il est élu, il va tenir sa promesse? Est-ce qu'il va montrer au monde entier que l'Amérique est encore l'Amérique, qu'elle a une puissance, et quoi que vous pensez de l'Amérique, nous, on veut déplacer notre ambassade de Tel Aviv à Jérusalem pour prouver que l'Amérique est encore forte et qu'elle se fait entendre sur la planète. Mais d'un autre côté, quelle sera la réaction du monde arabo-musulman? Est-ce qu'eux aussi vont se faire les muscles et dire bien c'est le moment aussi de nous d'agir et on veut délivrer Jérusalem? Alors, est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il faut le faire? Sur un certain plan diplomatique, c'est peut-être bien de le faire, mais wait and see, de nouveau. Bon, le reste, si vous prenez le PowerPoint, vous verrez ce que dit Jean-Marc Ayrault et les autres. De nouveau à l'ONU, ça c'est tout récent, 23-02, Ça, vous avez lu, vous avez, hein, moi, je n'ai pas de télévision, mais je reçois les emails. Et donc, l'ambassadrice des États-Unis, Nikki Haley, nommée par Trump, sous concours l'ONU au sujet d'Israël. Du jamais vu, de mémoire récente. Ouais, ce n'est pas de mémoire ancienne, mais de mémoire récente. Et c'est vrai que depuis quelques décennies, on attaque toujours Israël. Alors, l'Organisation des Nations Unies se fait encore étrier par l'ambassadrice américaine auprès de l'ONU au sujet de son obsession contre Israël. Obsession qui frôle l'antisémitisme institutionnel. Et il pourrait mettre même l'antisémitisme, l'antisionisme, hein, institutionnel. Maintenant, on n'est plus tellement antisémite. On voit ce que ça a donné en Europe. Mais on est anti-sioniste. Ah, les sionistes, les colons. Vous, vous avez eu des colonies aussi, vous ? À Rome, au Vatican, non ? Ah, c'est pas la même chose. La France n'a jamais eu de colonie. La Belgique non plus, la Hollande non plus. L'Espagne, le Portugal. Si, si, ils en ont eu. Sommet de Paris, ça vient de sortir. J'ai découvert ça hier ou avant-hier. Après la conférence de paix, bon, c'est déjà vieux. Publie une déclaration réaffirmant leur engagement envers la solution de deux États. Et les nations actuellement veulent à tout prix qu'il y ait deux États. Alors, c'est vrai aussi qu'Israël ne peut pas absorber et annexer la population arabe de Judée et de Samarie. Il y a au moins 2 millions et quelques. Et si vous rajoutez la bande de Gaza que personne ne veut, surtout pas les Égyptiens ni les Israéliens, qu'est-ce qu'on va faire avec eux ? Mais Abbas pourrait nous faire un coup terrible, parce qu'il a des problèmes dans son gouvernement, bon, il est là depuis longtemps, sans élection, et un beau jour, il pourrait écouter, maintenant, moi, allez, je jette tout. Allez, je refuse d'être président, on va dissoudre notre gouvernement. Voilà, Israël venait prendre les commandes des Palestiniens. Ben, ça ferait drôle à Israël, hein ? Depuis 1993, ils ont leur autonomie, ils gèrent une partie de leur population et tout le reste. Qu'est-ce qu'Israël ferait ? Et ça, ce serait un coup terrible pour Israël. Bon, il faudrait se ressaisir et refaire le gouvernement militaire qu'on avait avant 1993 en Judée-Samarie. Bon, il y a toujours la présence israélienne à la zone C, mais si on récupère la zone B et surtout la zone A, avec les 7 villes principales et 80% de la population des Arabes, on serait mal. Alors, ils ont souligné l'importance de l'initiative arabe de paix de 2002 comme cadre global. Bon, voilà. Leur soutien à un règlement juste, ah, ça c'est toujours ce qui revient, règlement juste et durable et global pour une paix. Mais dénoncer les agissements des Palestiniens, ça ils ne le font pas, et de la bande de Gaza non plus. Alors, comment avez-vous voulu qu'il y ait une paix équitable quand on entretient les uns avec les armes et la haine contre Israël? Ça aussi, il faudrait, si vous voulez vraiment la paix, alors, excusez le terme, mais j'ai dit foutez-nous la paix, on fera la paix entre nous. Bon, la France soutient la solution deux États. La France, sa religion, c'est la laïcité, donc elle veut deux États, deux amis, deux frères. Bon, les 70 pays qui sont réunis à Paris, vous connaissez la déclaration. Et le président israélien, cette résolution scandaleuse, grave et malheureuse ne nous apportera pas de négociation avec les Palestiniens, mais au contraire rend ces perspectives encore plus éloignées. Alors peut-être qu'il faudra deux États, je ne sais pas. Tiens, c'est nouveau ça aussi. Les États-Unis pourraient se retirer du Conseil des droits de l'homme qu'ils jugent trop partial vis-à-vis d'Israël. Ça pourrait être bien ça. Qui siège où ça ? À Genève, indiqué samedi 25 février, le site d'information Politico. Considère l'organisation onusienne comme étant fondamentalement anti-israélienne. Et l'UNRWA également, qui s'occupe des Palestiniens et des réfugiés palestiniens. Croyez-moi que l'argent va dans la poche de certains de leurs leaders et autres, et le peuple ne voit pas tout l'argent, qu'une petite partie. Voilà. Donc ça, on passe. Et maintenant, c'est nouveau. Il y a un peu de l'acharnement depuis 2 ou 3 ans, des résolutions en France. Et maintenant, 154 parlementaires français qui demandent à Hollande que la France reconnaisse l'État de Palestine. Un appel à François pour qu'il ne manque pas un rendez-vous avec l'histoire. Il y a un rendez-vous avec l'histoire, créer deux États, un État palestinien et un État juif. Et puis après, Oui, on a un rendez-vous avec l'histoire actuellement. Et ça avance très vite. 26-02. Bon, vous pourrez lire ça par vous-même. Alors, Monsieur le Président, montrez-vous à la hauteur de l'enjeu et ne manquez pas ce rendez-vous avec l'histoire en reconnaissant dès à présent l'État de Palestine. Ah, la France, elle n'est pas pro-arabe, la France. Elle n'a pas de problème, d'ailleurs, avec les terroristes. Donc, pour bientôt finir, voici les revendications pour commencer à Jérusalem. Alors, si ces demandes sont accordées à 100%, les Palestiniens recevront le mont des Oliviers. C'est quand même saint pour les Juifs, c'est saint pour les chrétiens, marqué dans la Bible. Toute la vieille ville, mais sur les sites musulmans et chrétiens. Le jardin de la tombe, qui était de 48 à 67 du côté jordanien. Le quartier juif de la vieille ville, avec les synagogues et le mur occidental, bien sûr. Le mont du Temple, qui est déjà aux mains du Wakf. Et tous les quartiers arabes et juifs à l'est de la ligne de démarcation de 1967. Donc ils veulent commencer, qu'on retourne aux frontières de 67, et puis après on verra à quelle autre frontière on reculera. Oui, mais le Seigneur veille. C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. C'est sa montagne sainte. C'est son pays que les nations sont en train de diviser. Bon, première ville sainte du peuple juif, capitale de l'État d'Israël, est devenue une pierre pesante pour toutes les nations. On l'avait prédit Zacharie, vous connaissez ce texte. Voici que moi-même, ce n'est pas l'ONU, moi-même je fais de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Et on est vraiment dans l'étourdissement. Quant à Judas, ce sera pendant le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre lourde à soulever pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront gravement meurtri, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle, toutes les nations, par le biais de l'ONU ou autre. Pourquoi faire? Pour que les Juifs cèdent aux musulmans? Je ne sais pas. Mais enfin, c'est à peu près l'histoire que nous vivons, mais peut-être qu'il y aura autre chose dans 10 ans, 50 ans, je ne sais pas. Tiens, pour que ça fait là, ça battre du blé. Ah bon? Ah oui, quand même. Il a son vent à la main, puis il nettoiera son air. Le mont du Temple, c'était quoi? Quand David a acheté l'aire d'Ornan, c'était une aire de battage. Et c'était le lieu saint de la ville de Jébuse. Donc c'est un lieu païen. Dieu a choisi Jérusalem, était une île païenne comme les autres. Eh bien, imaginez maintenant que le Seigneur, c'est le moment de la moisson, on a récolté le blé, et puis on est à l'ancienne, on a son fléau, et puis on va battre pour séparer le blé de la paille, et puis après on va prendre son vent et profiter du vent de l'après-midi de l'été qui souffle de l'ouest vers l'est, et comme ça, toute cette balle va aller dans la vallée du Cédron, qui est la vallée de la Géhenne, qui est la vallée de Josaphat. Donc il y a un symbole aussi, que Dieu a son vent, il va faire le nettoyage sur le mont du Temple. Qu'est-ce qui lui appartient? Qu'est-ce qui est la balle? Qu'est-ce qui est le blé? Voilà pourquoi j'ai mis ça. Et le Seigneur rugit de Sion, il donne la voix. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, votre Dieu qui demeure à Sion, ma montagne sainte, Jérusalem sera sainte. C'est pourquoi tous ceux qui te dévorent seront dévorés et tous tes adversaires iront en captivité. Ceux qui te saccagent seront saccagés, c'est marqué dans la parole. Voici, je fais revenir les captifs des tentes de Jacob, j'ai compassion de ces demeures. Je fais de Jérusalem une coupe d'étourdissement, on l'a vu, pour tous les peuples d'alentour. Et il est ému de jalousie de voir que toutes ces nations se liguent, bientôt comme un seul homme, contre Israël, contre les Juifs, contre le mont du Temple, pour en faire un lieu saint uniquement que pour les musulmans, pour l'islam, qui nie l'existence du Fils de Dieu. J'éloignerai de vous l'ennemi. Car voici qu'en ce jour, je ferai revenir les captifs de Juda et de Jérusalem. Vous connaissez ça? Joël chapitre 4. Et là, j'entrerai dans la vallée de Josaphat en jugement au sujet de mon peuple, de mon pays, de mon or, de mon argent que vous avez pris et de mes enfants que vous avez vendus à Javan, à la Grèce. Et tes dépouilles seront partagées au milieu. Je rassemblerai toutes les nations à Jérusalem. Zacharie 14. Et voilà les tombes qui se trouvent dans la vallée du Cédron, dite aussi vallée de Josaphat, c'est-à-dire du jugement. Yéhovah Shofet, un Shofet c'est un juge, et Yéhovah c'est Yud-Hei-Vav-Hei, donc l'éternel juge. Et voilà où il va juger les nations. Mais il y aura aussi, vous voyez, toutes ces tombes. Il y aura le jour de la résurrection quand il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Je ne sais pas quand. On arrive, c'est sûr, dans la fin des temps, mais ça peut encore durer un certain temps. Mais oui. La venue du Messie. Porte, élevez vos linteaux. Je pense qu'ils se sont déjà élevés il y a 2000 ans quand il est rentré dans Jérusalem, acclamé par la foule. Et quand il viendra, je ne sais pas si la muraille sera encore là, si la porte va s'ouvrir, parce qu'il y aura un grand tremblement de terre et autres. Mais on attend. Et voici ce que je vais retrouver aussi. Quant à toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Une multitude alors chercheront et la connaissance augmentera. Et la connaissance augmente. Et peut-être la connaissance du plan de Dieu aussi pour les années à venir. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges de Dieu, ni le Fils, mais le Père seul. Mais on s'approche d'un dénouement. On ne peut pas vous dire que ce sera cette année. Même si en 1897, plus 1947, plus 2017, allez faire des calculs, il y a des bouquins qui nous parlent de ces dates et autres. J'en sais rien, mais soyons prêts. Et on voit le dénouement, on voit les nations qui se liguent, la France, bon, l'Amérique qui se relève un petit peu, fait marche arrière. Jusqu'à quand, jusqu'à où? Est-ce que sur le plan économique, ils seront obligés d'aller de l'avant et de suivre le courant contre Israël? Je ne sais pas. Regardez la pauvre petite colombe là, ou tourterelle, toute mouillée sous la neige. Priez pour la paix de Jérusalem, c'est tout ce qui nous reste à faire. Et aussi, de temps en temps, peut-être dire à nos médias et arrêter un peu de critiquer Israël. Allez voir ce que les Palestiniens font à leur propre peuple. Vous voulez critiquer Israël, mais alors faites la même chose de l'autre côté. Vous voulez la paix. Là, vous incitez à la violence et la haine contre Israël. Ce n'est pas ce qui va apporter la paix. On est responsable quelque part aussi. Et je crois que c'était tout. Bon, ça a été long comme d'habitude, mais bon, je ne peux pas trop abréger. Mais si ça peut vous aider. Donc voilà comment l'islam a réussi à récupérer Jérusalem et maintenant se sert des nations pour inciter les nations à créer un nouvel antisémitisme, un antisionisme que les juifs usurpent les biens de l'islam. L'islam est en train d'usurper ce que le Seigneur nous a donné, à nous, aux Européens et aux Juifs également. Bon, je sais que vous êtes conscients de cela, mais de temps en temps, quand vous parlez avec des amis, peut-être le rappeler un peu, dites attention, Jérusalem était quand même sainte pour les Juifs et pour les chrétiens, et Jésus est venu à Jérusalem. Il est mort là-bas, il est ressuscité. On a un petit travail, je pense, à faire. Je ne sais pas si vous avez des questions, je vois qu'il est 9h30. Mais là, ils s'unissent un peu dans la haine contre Israël, oui, parce qu'ils sont, pour être divisés, ils sont divisés entre eux. Oui. Alors, en Israël, il y a aussi des problèmes sur le plan. Oui, oui, à Tel Aviv, oui. Même à Jérusalem, ils font aussi. À Jérusalem, ils s'éloignent un petit peu des quartiers religieux parce que... Bon, en Israël, priez aussi pour les problèmes et l'avortement également qu'il y a en Israël. Alors, à Jérusalem, il y a... Voilà. Alors, vous avez bon, l'Église catholique qui est très bien présentée, les Grecs orthodoxes, les Arméniens, les Coptes, les Syriaques et nommez-les, toutes les branches du protestantisme. Et certaines branches n'aiment pas tellement Israël. Et dans les églises anciennes, catholiques et autres, il y a quand même l'antisémitisme. Et comme ce sont des Arabes qui habitent là-bas, non seulement ils sont antisémites parce qu'on leur a enseigné la haine du juif, hein, on ne peut pas dire le contraire, mais également maintenant ils disent « oui, ben, les juifs prennent notre terre ». Donc ils ont une double... Alors ils sont antisémites parce qu'ils sont chrétiens, hein, on leur a inculqué dans la haine, on leur a donné des versets bibliques qui ne parlent que hein, « oui, que son sang retombe sur nous » et tout le reste. Mais aussi les juifs viennent et ils prennent notre terre. Donc comment peuvent-ils? Mais est-ce que vous êtes allé à Jéricho rencontrer Saad, cet ancien musulman qui était bras droit ou je ne sais pas quoi, ou chauffeur d'Arafat? Il est allé aux États-Unis, il s'est marié, il est chrétien. Et il est à Jéricho. Il n'est pas resté en Amérique, il est venu à Jéricho. Et il reçoit des groupes de touristes. Et il aime Israël, il aime les Juifs. Ça n'a pas été facile pour lui d'accepter le plan du Dieu de la Bible pour ce pays, pour les Juifs. Et il a un magasin, il se débrouille bien sur le plan finance, mais avec les bénéfices qu'il fait, il aide les Palestiniens, il distribue des bibles et autres. Mais ça n'a pas été dur, c'est pas facile aussi de changer. Il y a beaucoup d'autres chrétiens, et des catholiques et autres, certains ont compris que oui, la Bible, oui, Dieu leur a donné cette terre aux Juifs. Et en fin de compte, c'est eux qui sont arrivés, les Arabes chrétiens, qui ont pris cette terre. Et pas les Juifs qui la prennent. Où ils reprennent leur héritage, ou rentrent dans leur héritage. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, peut-être qu'il y a beaucoup de problèmes, parce que sur le plan de la société israélienne, il y a énormément de problèmes, bien sûr. Comme les mêmes problèmes que vous avez dans votre société. Hein. Comment ? Exactement. Et d'un autre côté, il y a des juifs ultra-orthodoxes, puis les télévisions, ils aiment bien montrer un peu les excès de ces communautés, alors qu'il y a d'autres aspects de la communauté qui sont très bien, mais ça, on ne montre pas. Mais les excès, on en a parlé ces derniers jours, pendant mes conférences. Oui, mais prier pour la société israélienne, c'est vrai. Mais Jésus l'avait promis, hein, et les disciples, hein, Étienne, hein, bon. Mais oui. Mais ceux qui font du bon travail, c'est qu'ils ont une opposition, des ultra-orthodoxes. Il y a peut-être des orthodoxes qui connaissent aussi le Mashiach, Jésus, Yeshua. C'est vrai que la société israélienne, mais bon, ça n'empêche pas que Dieu a un plan, il les ramène, qu'on le veuille ou pas. Et il va répandre son Esprit Saint, un esprit de grâce et de supplication. Bon, je vais vous dire autre chose. Peut-être que je l'ai mentionné ici. Bon, j'étais chez moi à Jérusalem et j'avais terminé une tournée. Et dans une église, j'avais trouvé où on m'avait donné une petite brochure. 30 jours de prière musulmans. Et tous les jours, il y avait un état, un pays, une ethnie. Et je me rappelle un vendredi matin, je lisais mon texte, je priais, je dis « Seigneur, ça ne sert à rien, je suis tout seul dans mon coin. » Et j'ai fermé. Le lendemain, je suis allé à l'église baptiste. Et le culte commence à 11h et j'aime bien arriver avant l'heure. Et par la porte arrière, enfin du fond, je vois le pasteur qui arrive. Il n'y avait personne dans la salle que moi. Il avait un petit quelque chose à sa main. Il avait la même brochure que moi, en anglais. Moi, j'ai eu ma réponse. J'étais chez moi la veille. Je dis, Seigneur, ça ne sert à rien. Je suis tout seul dans mon coin. Il m'a montré que le pasteur et sa famille, et certainement d'autres, et j'ai repris le lendemain la petite brochure, et avec foi et courage, avec tous les chrétiens du monde entier, Seigneur, je joins ma prière, et tu bénis et tu répands ton Esprit Saint. Voilà, j'ai répondu à votre question. Donc même si on est un petit groupe, c'est vrai que c'est facile de se décourager. Très facile. Et c'est ce que l'ennemi veut. Mais de temps en temps, le Seigneur nous remet les pendules à l'heure. Il ne m'a rien dit. J'ai simplement un coup d'œil, je vois le pasteur passer avec le petit livret que j'ai à la maison. Le Seigneur m'a fait un grand sermon, mais j'ai tout de suite compris que je n'étais pas le seul. Et c'était un encouragement, il fallait continuer. Donc, si ça peut répondre à votre prière. Et prier pour la société israélienne et que les jeunes israéliens, les jeunes juifs qui sont messianiques, puissent au travail, à l'armée surtout et autres, faire progresser le message de l'Évangile et de Jésus. Alors, concernant la fin des temps, on n'en est pas loin. Comment ça va se passer? Je ne sais pas. Lisez tous les livres que vous pouvez lire. Vous pourrez les comparer, et vous pourrez même changer certaines dates, car c'était il y a quelques années en arrière, donc on refait le livre, et on rajoute 10 ans de plus. Je plaisante, mais non, mais c'est un peu ça, il faut faire attention, oui. Alors, c'est une très bonne question. Une génération, c'est combien d'années? Vous voyez, même vous, vous êtes divisés. Il y en a qui disent c'est 40 ans, d'autres 70 ans, et dans la Bible, il y a même 100 ans. 38 ans, il y a aussi 100 ans. Écoutez, tu n'étais pas né? Ben moi, je suis né cette année-là. J'ai exactement l'âge d'Israël. Tu es pourtant la retraite. Oui, on a beaucoup parlé de cette génération, mais combien de temps une génération et autres, voilà. Et le Seigneur n'est pas encore revenu, ça fait 68 ans que l'État, bientôt 69 que l'État existe. Mais on arrive aux 70 ans bientôt. L'année prochaine aussi, on va fêter les 50 ans de la réunification de Jérusalem. Des jubilés. Alors, essayez de voir avec tous les chiffres. Moi, je ne rentre pas dans ce discours. Mais c'est intéressant quand même de voir. 1897, 1917, la déclaration Balfour. 1947, l'ONU qui reconnaît un État aux Juifs. Et puis, et on est en quelle année chez les Juifs aujourd'hui? Ça, c'est facile à retenir. Hein? 70, oui, 77, 77. Oui. Ça fait 3-7 aussi, oui. Et on sait qu'il y a les 3-6 aussi, donc... Voilà, c'est ce que je voulais partager. J'espère que ça a apporté un peu d'eau à votre moulin et comment prier et puis voir aussi cette force de l'islam. Et vous la sentez chez vous, ici en Suisse. Oui,